en 2004 et celui-là, il s'écrit tout seul. Nicolas Cage ira voler la déclaration d'indépendance. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence.
Put the bunny back in the box.
I'd like to take his face off.
Salut à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis Alexis Duclos et comme toujours j'ai avec Julien Asunsao. Salut Julien.
Salut Alexis, l'épisode que tout le monde attend.
Qu'on attendait tous. Oh, alors. Moi je l'attendais avec une hâte nous deux, incroyable. En tout cas. Parce qu'aujourd'hui on va parler de...
De National Treasure comme tu l'as dit, mais surtout en français c'est Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Donc un titre beaucoup plus long.
Et ça y est,
qu'on attendait tous les deux pour des raisons assez différentes. Hein. Pour ceux qui nous suivent depuis le tout début, on en avait notamment pas mal parlé, je crois, dans l'épisode 0, si je dis pas de bêtises, ouais, notamment quand on évoquait les films qu'on attendait. Toi, parce que c'est un film qui t'a pas mal marqué.
Que j'adore. Ouais, moi j'adore ce film.
Et moi, parce que je l'ai pas vu et que du coup, tu m'en as tellement parlé que. Maintenant j'ai très hâte de le voir, quoi.
Benjamin Gates et le trésor des Templiers, que genre à chaque fois j'oublie que ça a un rapport avec les Templiers, moi, ce truc là mais bon.
Le nom français, tu peux pas oublier, tu peux pas passer à côté. Donc c'est un film américain de 2004 réalisé par John Turteltaub.
Yep.
Qui a fait Rasta Rocket
et dans n'importe qui, ouais.
Ouais, mais c'est vraiment tout, quoi. Enfin, les autres films, j'avoue que ça me parlait pas du tout.
Mais qui a aussi fait The Sorcerer's Apprentice.
Ah, mais c'est lui.
L'apprenti sorcier avec aussi notre poteau Nicolas Cage.
Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est incroyable. Cet homme est un. Enfin, c'est notre nouveau héros. Parce que après, je l'ai pas vu, mais a priori, l'apprenti sorcier, c'est vénère aussi. Hein. Donc, avec Diane Kruger, Justin Bartha et Sean Bean, et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc ouais. J'en voulais en profiter pour faire un petit big up à Diane Kruger et surtout au film Mr. Nobody. Donc il a une tourne.
Oui, absolument.
Film incroyable. Mais voilà. Puis toute sa carrière française, il ne faut pas oublier que Diane Kruger a tout un pan de sa carrière en France.
Ouais.
C'est le moment cocorico de Citizen Cage. Non mais voilà, est-ce que tu voudrais pas nous faire le pitch? Tiens, j'ai envie de te le laisser.
Ah, t'as envie de me laisser le pitch aujourd'hui?
Bah ouais, là je pense que cet épisode c'est le tien.
Cet épisode c'est mon épisode. Ok, bon bah alors dans ce cas-là, Benjamin Gates, le trésor des Templiers, nous fait suivre le dit Benjamin Gates, qui est qui décide de remonter un peu dans son arbre généalogique de la famille Gates, parce qu'il veut absolument mettre la main sur un trésor, le trésor des Templiers, comme le nom du film l'indique, qui aurait été caché par les francs-maçons pendant la guerre d'indépendance. Je suis déjà heureux juste en disant ça. Et voilà, et en gros...
Il y a toutes les marottes là déjà.
Et en gros, il se rend compte que c'est un truc de famille en famille, où ils sont chasseurs de trésors de père en fils. Et en gros, ils se rendent compte que le seul moyen d'aller jusqu'au trésor, c'est de suivre des indices. En gros, tu vas avoir un indice, ça va t'amener un autre indice, ça va t'amener un autre indice, et puis c'est tout. Et donc voilà, il décide d'aller, lui et un de ses potes Riley, avec un mercenaire...
Du nom de Yan Ho.
Merci.
Joué par Sean Bean.
Joué par Sean Bean, forcément. Et donc ils vont, avec ces deux gars-là, essayer de trouver les indices pour tout simplement retrouver le trésor des Templiers. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire plus de choses sur ce film-là pour l'instant.
Ah ouais, tu gardes un peu de mystère.
Ah bah ouais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin honnêtement. C'est un bon synopsis. On va pas...
Oh bah ça va, jette-toi des fleurs. Non, bah écoute.
Non, je parle de film, c'est un bon synopsis de film. Je suis pas en train de me congratuler sur ce que je viens de dire.
Et ouais, il faut, sachant qu'il y a encore. Tu as occulté des éléments qui donnent encore plus envie.
Bah, y a pas besoin d'aller plus loin, je trouve.
Non, non, mais je suis d'accord, mais voilà, il faut attendre à encore d'autres surprises.
Il y a des retournements de situation, il y a de la gaudriole, il y a du fun. Non, voilà, bon, après, bon, bah, du coup, toi, tu nous as déjà dit, tu l'as absolument pas vu, c'est ça ?
Non, non, bah, ni celui-là, ni les suivants, évidemment, mais donc, parce que c'est une série, enfin, une série de deux films seulement.
C'est une série de deux films, et le troisième est censé sortir voilà. Bientôt. Bah, ils sont en train de le préparer. Mm-hmm.
Donc, Nicolas Cage qui se retrouve un peu dans une série d'aventures. Donc, bon, le pitch, on est vraiment très proche de Da Vinci Code. Enfin, ça va renforcer un peu ce délire-là. Mais un Da Vinci Code revisité à la sauce Nicolas Cage, quoi. Donc,
c'est voilà. À la sauce hollywoodienne, ouais, c'est très pété.
Ouais, le personnage principal est moins intellectuel, après, j'imagine, et un peu plus d'action, peut-être.
Bah, ouais, en fait, il est très. Si je devais faire le parallèle avec un autre personnage que Nick Cage a joué, ça ressemble plus à 60 secondes chrono, par exemple. C'est très action-orienté, c'est très... mais c'est beaucoup plus fun que 60 secondes chrono. Vraiment. Okay.
Vendu.
Ouais, voilà. Enfin, moi, c'est un film que j'ai vu... je l'ai vu 3, 4, 5 fois. Puis bon, enfin, c'est pas pour rien que... on a un bout
oui.
De la soundtrack dans notre début, là, où justement il va dire « I'm gonna steal the Declaration of Independence ». Et c'est pas pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est iconique comme truc. Il y a beaucoup de choses que Nick Cage a fait, mais c'est vrai que par contre, ça, c'est quelque chose... C'est, non seulement c'est un des trucs les plus importants qu'il ait fait, ben, les plus reconnaissables qu'il ait fait, mais c'est aussi un des films qui a rapporté le plus d'argent
oui.
De sa carrière, en fait.
C'est un de ses gros succès au box-office, ouais.
Ouais, 347 millions pour un budget de 100, donc c'est un de ses plus gros succès au box-office. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a du fun là-dedans, il s'amuse, quoi. Donc, enfin, voilà, quoi. Après, voilà, c'est réalisé par John Turteltaub, qui est pas... C'est pas le plus grand réalisateur, mais c'est pas non plus un gars wack, quoi. Il fait des trucs super cool. C'est produit par Jerry Bruckheimer, donc forcément tu sais exactement où est-ce que ça s'en va. Ça laisse pas de place à l'imagination, puis il y a des explosions, donc c'est génial, quoi.
Voilà, oui, je pense que en fait, peut-être que t'as raison, la meilleure façon de décrire le film, c'est que c'est un film Bruckheimer, en fait.
C'est un film de Bruckheimer, quoi. Donc on va se retrouver dans la même chose que The Rock, on va se retrouver dans 60 secondes chrono, puis ça va être fun.
Pirates des Caraïbes.
Ouais, voilà.
Donc... Allez, bah écoute, moi je suis vendu, donc je vais aller regarder ça le plus de possible.
Ouais. Et bah on se retrouve juste après alors.
We are on video.
I lost my feed.
What?
I lost my feed, Ben. I don't know where anyone is. I have nothing. Ben, I have nothing. Get out of there. Get out of there now.
I'm taking the whole thing. I'll get it out in the elevator.
What are you talking? Is it heavy?
Ah, ça y est, c'est bon. On l'a vu. On a vu Benjamin Gates et le trésor des Templiers, National Treasure. Et je pense qu'on va partir directement dans le résumé.
Ouais, c'est bon, j'ai été défloré de Benjamin Gates. Je fais partie maintenant de la confrérie.
Les Templiers. Non, des francs-maçons, pardon.
Oui, attention. Ouais. C'est pas parce qu'il s'appelle Et le trésor des Templiers.
Que, ouais, c'est... Mais ouais, c'est pas pareil. Mais en fait, c'est pareil, mais pas pareil. C'est juste les Templiers oui. Qui se sont renommés. Mais ça, on va en apprendre plus avec le film.
Ça, c'est pour un autre épisode, quoi.
Peut-être.
Bah écoute, je te laisse l'honneur parce que je sais à quel point voilà, ça te fait plaisir.
Et dans ce cas-là, le film commence en 1974, quand le grand-père de Benjamin Gates, John Adams, parce qu'ils ont tous des noms de président et de gars de la Déclaration d'indépendance, explique à son petit-fils Benjamin Gates que, ben, en fait, son arrière-grand-père, non, bah bref, son grand-père, je sais plus. Là.
Non, je crois que c'est ça, ouais. Arrière-grand-père.
Bah, ouais. Son ancêtre en 1832 oui. A reçu de la part de Charles Carroll of Corlington, qui est en fait un des gars qui avait signé la déclaration d'indépendance, un indice qui allait mener au trésor des Templiers, qui est censé être le plus gros trésor jamais volé aux Égyptiens, non, jamais volé. C'est clair.
Oui, non, mais c'est pas un truc qu'ils ont volé.
C'est vraiment beaucoup d'argent.
Plein de richesses qu'ils ont amassées au fur et à mesure de pillage, quoi.
En fait, toute l'histoire est basée autour de ce trésor qui a été récupéré par... amassé justement par les Templiers, qui est ensuite parti aux États-Unis pendant les années fondatrices des États-Unis, puisque en fait on apprend que pas mal toutes les personnes qui étaient qui ont signé la déclaration d'indépendance, donc les pères fondateurs des États-Unis, sont en fait faisaient plus ou moins partie des freemasons, francs-maçons, ouais.
Je crois qu'ils disent qu'on a au moins 6 sur les signataires qui seraient au moins 6 qui sont sûrs qui sont des francs-maçons.
Et qui, en fait, les francs-maçons dans l'ancien temps, c'était les Templiers qui, eux, ont récupéré le trésor. Et bien sûr, donc on a ce
voilà, maintenant, le rôle des francs-maçons, ça va être de protéger ce trésor.
Voilà. Et donc on a le grand-papa, John Adams, qui dit à son petit-fils que, techniquement, comme... son ancêtre est la seule personne qui a cet indice, tu es maintenant, toi, Benjamin Gates, un franc-maçon, sauf qu'il n'y a personne pour en faire un vrai franc-maçon, et tu dois maintenant protéger ce trésor. Et Benjamin Gates, qui a genre 10 ans ou 12 ans, là, il est bien sûr à fond, parce que maintenant il est genre, ouais, écoute, je suis un Templier, faut que je protège un trésor.
Ça,
mais son père, Patrick, joué par John Voight, lui, il est genre, non, c'est des conneries, moi j'ai perdu 20 ans de ma vie à essayer de trouver ce trésor, ça a rien à voir, oublie ça tout de suite, laisse tomber. Et bien sûr, comme tout bon film, il a laissé tomber et on le retrouve 20 ans plus tard dans un appartement tout seul, triste. Et ben non, bien sûr que non. On le retrouve 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard même, quelque chose comme ça, avec un Benjamin Gates plus adulte qui maintenant ressemble à Nicolas Cage. C'est bien foutu la vie.
Ouais, qui est devenu Lara Croft.
Exactement, puisqu'il est un historien, cryptologue et chasseur de trésors. Et on le retrouve dans une expédition en Arctique, je crois, ouais, en Arctique.
Ouais, c'est ça, je crois. Un endroit où il y a de la glace en tout cas.
Avec son collègue Riley, on va apprendre à connaître plus longtemps. Et un mec qui s'appelle Ian O, qui est en fait le type qui finance cette expédition, qui est joué par Sean Bean.
En vrai, il s'appelle Sean Bean.
En vrai, il s'appelle Sean Bean.
Le grand Sean Bean. Mais oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, dans l'intro, on apprend que l'indice qui avait donné, en fait, Charles Carroll à Thomas Gates, donc leur ancêtre, c'était le secret réside avec Charlotte. Et... bah voilà, toute l'idée, c'est de trouver qu'est-ce que Charlotte. Et en fait, je sais plus s'il nous explique comment, mais il y a toute une réflexion quand même.
Bah, il nous explique pas vraiment, mais en gros, c'est 30 ans plus tard.
C'est leur cheminement de pensée, et en fait, il découvre que Charlotte, c'est un bateau.
Exact.
Et là, en fait, ils sont justement dans une expédition pour réussir à retrouver la ruine, comment ça s'appelle, les ruines enfouies du bateau, enfin c'est pas le mot ruine, mais bon,
mais je vois ce que tu veux
l'épave,
dire.
Voilà, l'épave, ouais, du bateau, pour essayer de trouver est-ce que le trésor est là, ou est-ce qu'on va avoir un autre indice, enfin voilà, de continuer à suivre la piste.
C'est bien sûr, c'est un bateau en bois dans l'Arctique, complètement entouré de glace, le bois aurait dû péter, enfin bref, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas là pour avoir des choses réalistes, parce qu'on est dans Benjamin Gates. Et donc, comme tu dis, voilà, il rentre dans le bateau, et là, tout ce qu'il se rend compte, c'est que en fait, le bateau est rempli de tonneaux de poudre. Sauf que Benjamin Gates, lui, il est intelligent dans sa tête, parce que Sean Bean, il est là, il est genre, mais c'est que des tonneaux de poudre, c'est quoi ça, tu m'as fait venir pour des tonneaux de poudre. Et là, Benjamin Gates est genre, mais attends, regarde lui, là.
Franchement, c'est super. Autant il y a plein d'endroits où tu te dis, ah, effectivement, c'est bien poussé, mais là, c'est vraiment évident. Quoi. Là, non, mais c'est juste que C'est bizarre, le capitaine, pourquoi il protégerait ce truc de poudre? Bah oui, enfin, tout le monde aurait deviné que c'était celui-là qu'il fallait regarder. Enfin, t'as un, ils ont tous posé, et puis d'un coup, t'en as un qui est encerclé, et t'as le mec qui est avec son chapeau, qui est bien en train de le protéger. Oui, je crois que celui-là a l'air plus important que les autres, quoi. Limite, on serait dans un jeu vidéo, bon, il, voilà, il serait surligné en rouge.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, c'est bizarre, c'est le seul sur lequel je peux cliquer. Tu sais, dans les points clics où t'as, tu sais, les objets sur lesquels tu peux cliquer, le dessin il est très différent, tu sais.
Ouais, par rapport au fond, ouais, c'est pas le
oui,
même.
Oui, par rapport au fond, le dessin
animés,
est pas du tout pareil.
Tu sais que c'est
coup,
genre, ça peut bouger, ouais.
Donc ça ressort énormément, et tu te dis, bah, c'est clairement là. C'est ceux qui sont mal faits, quoi. Donc, voilà. Donc, il vide le contenu du tonneau, et il y avait beaucoup de poudre, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi une pipe.
Alors, une pipe qui s'appelle une pipe
meerschaum. Ouais, je crois que c'est une pipe, en gros, qui est taillée dans une espèce de... Dans un truc un peu spécial, ouais. On dirait un peu de l'ivoire, en fait.
Ouais, bah ça a l'air d'être un peu ça, ouais. C'est genre... Bah, en gros, c'est...
Ouais,
c'est un
minéraux.
C'est une pipe taillée dans un minéral, voilà. Et comme Benjamin Gates, il est vraiment pas con, en fait, il se rend compte que... Ah, en fait, il y a des espèces d'écritures... sur la pipe, donc il décide de se couper la main pour avoir du sang et utilise son sang pour se servir en fait de la pipe comme d'une étampe en fait, ce qui permet, il prend un bout de papier, il met du sang sur la pipe, puis il déroule la pipe sur le papier, puis ben voilà, ça fait une étampe, quoi. Ça, et du coup il peut lire le nouvel indice, ce à quoi Sean Bean est fâché, quoi. Il est genre, ben attends, tu m'avais dit que ça m'emmenait au trésor, puis il est genre non, ça, il lui dit ça peut-être nous emmener au trésor, ou alors ça nous emmène un nouvel indice. Et donc là, il a un nouvel indice que j'ai déjà oublié. C'est quoi l'indice exactement?
Une histoire de peine, de... enfin bon.
Il y a un nom dedans aussi.
Ouais, bah en gros, ça. En fait, il parle dans une explication là hyper complexe, super tirée par les cheveux. Oui, parce que à l'époque, en fait. Les stylos, ils écrivent avec du carbone, machin. Enfin, ils partent dans un truc un peu délirant. Puis en fait, à la fin, il fait bon, bah, c'est sur la déclaration d'indépendance.
Ouais, voilà.
Donc là, en gros, l'idée, c'est que il y aurait un indice sur le. Après, je sais plus s'ils savent déjà, mais
ils pensent
un
que
indice,
c'est
en tout cas, une carte.
Ouais, ils pensent
une carte
c'est une carte
sur
carte
le dos de la déclaration d'indépendance.
Et là-dessus, Benjamin Gates, bah, lui, il est un peu embêté parce que, bah, ouais, voilà. Bon, bah, merde, c'est la déclaration d'indépendance, quoi. Tu vas pas.
Ouais.
Mais à côté de ça, Ian est genre. Mais. C'est. Bon, moi je suis un criminel, hein, tu le sais
pas.
Ouais,
lui il a moins de. Il se pose moins de questions, quoi.
Tu le sais pas, mais moi je suis un criminel, donc j'ai pas de problème à voler la déclaration d'indépendance s'il faut.
Ouais, il le sait.
Non, il lui dit je suis un peu habitué à faire des choses hors de la loi.
Ah ouais, je pense que, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il se doutait un peu quand même que le mec il était pas très sain, mais bon.
Mais bref.
Puisque bon, le mec lui finance ses expéditions, et il se doute, c'est pour récupérer le trésor à la fin. Donc, il va pas s'arrêter là, quoi. Et
non, bah non.
Le mec il va pas dire oh, bon bah tant pis, hein, j'ai mis de l'argent pour rien là-dedans. Bon bah ça marchera mieux la prochaine fois.
Mais Ben, lui, il est pas très d'accord avec ça, et du coup, ben voilà, bon, ils finissent par se battre un peu, et bien sûr, Ian décide de faire comme tout bon méchant de film, il lui dit, ben écoute, en fait, tu vas mourir, quoi, parce que j'ai plus besoin de toi maintenant. Ce qui est stupide, hein, parce que c'est juste le deuxième indice, et après, on voit dans tout le film qu'il a clairement besoin de lui, mais genre, bref. Ça, c'est pas grave. Et Benjamin Gates réussit à s'enfuir grâce au pouvoir de la poudre à canon et du feu. En gros, il balance je sais plus quoi.
En fait, il allume une flare. Une fusée de détresse, en gros. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais un truc qui que t'allumes et qui permet d'éclairer. Et en fait, il le lance pour que Ian l'attrape en plein vol. Et je sais pas, je pense qu'il pouvait, il pensait se casser pendant ce temps-là.
Ouais.
L'autre le chope et dit, ouais, et maintenant on fait quoi une fois qu'elle est éteinte? Ah non, c'est avant qu'il dit ça, oui. Il dit, mais l'autre il allume, il dit, si vous me laissez pas partir, bah je la jette dans la poudre et on explose. Et le mec, il lui répond, mais bah, je vais juste attendre qu'elle s'éteigne, quoi. C'est un peu con. Donc voilà, non, mais finalement, il la lance, l'autre, elle finit par tomber dans la poudre. et ça explose et du coup ça sépare un peu les deux équipes et ça permet à d'un côté à Nicolas Cage et à son pote de donc j'ai déjà oublié le nom
Riley
voilà c'est ça de se barrer pendant que bah que les autres partent de leur côté et donc là on a Ben et Riley qui retournent à Washington et qui ils se retrouvent un peu devoir expliquer à tout le monde que quelqu'un va essayer de voler la déclaration d'indépendance mais en fait bon tout le monde se fout un peu de leur gueule parce que c'est quand même improbable et surtout que quand on leur demande de préciser pourquoi quelqu'un ferait ça ou comment pourquoi ils sont au courant ils sont obligés de dire que c'est quelqu'un qui va récupérer le trésor des Templiers machin et tout enfin bon ça fait pas très sérieux.
Et bien sûr, parce qu'on l'a pas dit, mais Ian se barre avec la pipe, donc ils ont pas non plus, ils ont pas de preuve en fait que ça existe, et ils ont pas de preuve que ça va. Donc en gros, c'est juste le FBI qui se fout de leur gueule. Puis
en plus, il utilise pas son vrai nom parce que la famille Gates dans le monde scientifique, on va dire, est mis au banc du monde scientifique parce que tout le monde se fout de leur gueule. En fait, c'est des gens qui courent après des contes de fées, quoi.
Ce qui est très con, parce que moi, dans ma tête, tu me dis « Ah, je m'appelle Monsieur Gates », ma première réaction, c'est « Ah, vous êtes un cousin de Bill ». Je sais pas, genre « Ah oui, tu fais partie de la famille de John Adams qui
est un grand malade ». Dans cet univers-là, Bill Gates n'existe pas.
Peut-être, ouais, apparemment. Mais oui, voilà. Donc, par contre, comme le FBI veut pas les écouter, il décide d'aller voir... d'aller au...
dernière chose qu'ils vont, c'est...
Aux archives nationales,
ouais.
Pour parler à Dr. Abigail Chase, jouée par Diane Kruger, pour lui expliquer... en fait, elle est en charge de la restauration des trucs et tout ça, pour lui expliquer, la déclaration d'indépendance va être volée. Et là-dessus, Benjamin Gates se rend compte qu'en fait, elle a plein de... Pendant les élections de George Washington, il avait fait fabriquer des pins en fait, des pins en métal pour voter pour moi, blablabla.
Et dans le côté le pins, ça peut penser vraiment un truc très beaucoup moins historique.
Ouais, mais je sais pas comment ça s'appelle en vrai.
Oui, non, mais c'est le bon pins. Terme, mais ça pense à d'autres choses quoi.
Mais il lui en manque un et Benjamin Gates, lui, il l'a. Celui qui lui manque, ça va être important pour la suite. Donc ils parlent un peu de ça et en même temps ils essayent de lui expliquer voilà en fait on va vous voler la déclaration d'indépendance. Et là-dessus elle dit non c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas voler la déclaration d'indépendance, il y a tellement de trucs, c'est impossible de voler la déclaration. Et bien sûr cette fille-là donc
Abigail
elle apprend que c'est Benjamin Gates, en fait, et qui fait partie de la famille Gates, et que, on va pas le prendre au sérieux parce que c'est un idiot.
Non, elle l'apprend pas maintenant.
C'est pas maintenant qu'elle l'apprend ?
Non, pas du tout, non, c'est bien plus tard.
C'est vrai, il se fait passer
là, pour
l'instant,
justement, il s'appelle, je sais plus comment il dit qu'il s'appelle, mais... Il a toujours pas donné son vrai nom.
C'est vrai.
Donc, là, en fait, il sort de son bureau, et tout le monde leur a rionné. Donc là, il lui reste plus qu'une seule option pour lui. Et il y a cette scène, donc forcément assez mythique.
Tout le monde connaît. Ouais.
Et où il lui dit à son pote Riley. Voilà.
On l'a dans le générique, c'est que c'est important.
Oui. Donc voilà, ils vont, ils sont obligés. Donc maintenant, ils veulent voler. Il a changé d'avis. Il veut voler la déclaration d'indépendance. Et l'idée, c'est de le faire avant que Yann en face réussisse
face,
aussi.
En
donc
fait,
là, ils vont mettre en place tout un plan. Et là, on tombe dans un film de casse. Et là, j'ai dit, ok, ça j'aime bien.
Ça me plaît. C'est cool, ouais.
Là, on est vraiment dans Ocean Eleven, Mission Impossible. Enfin bon, il y a des gadgets et tout, quoi. Là, c'est cool.
C'est ça que j'aime beaucoup en plus avec ce côté deux équipes qui essayent, parce qu'on a vraiment le côté t'as un gars c'est MacGyver quoi, il va faire des trucs avec des chewing-gums et machin, et de l'autre côté t'as Yann qui lui a des trucs super sophistiqués, des gardes et des guns quoi, et c'est super cool, j'aime vraiment ce côté
Il y en a un qui est plus dans la force brute et l'autre plus dans le subterfuge quoi,
l'intelligence.
Donc leur idée c'est que Donc ils veulent obtenir. En fait, en gros, Abigail Chase, c'est celle qui s'occupe dès qu'il y a un problème, c'est celle qui s'occupe de checker la déclaration. Et ouais. Leur idée, c'est de faire en sorte que de créer une anomalie pour que la déclaration soit amenée dans une pièce spécifique, la pièce de restauration, on va dire, qui est fait exprès pour ouvrir, parce qu'elle est vraiment, elle est fermée dans, elle est visible au public, mais en fait, elle est vraiment protégée. Elle est dans un truc avec une vitre blindée et donc impossible à voler. Donc c'est de l'amener dans une pièce où qui est beaucoup moins protégée.
Mais c'est pas de l'amener, elle va être amenée. Ils ont besoin de l'amener pour récupérer.
Oui, de l'amener, pas eux-mêmes, mais je veux dire que elle se retrouve dans une pièce qui est moins protégée pour pouvoir la voler à ce moment-là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le plan est en deux parties. Parce que pendant le gala, quand ils vont aller le voler, la déclaration d'indépendance est déjà à cet endroit-là, ouais. Parce qu'ils la cachent. Mais par contre, avant, ils ont besoin de mettre quelque chose en place, parce qu'ils ont besoin de récupérer le code que Abigail utilise pour rentrer dans cette pièce-là.
Non, mais j'allais expliquer dans un deuxième temps.
Ah, ouais.
Mais en fait, ouais, c'est ça. Mais ça sert. Parce qu'en fait, c'est dans la deuxième partie qu'il a besoin justement
des
empreintes. Voilà. Mais dans un premier temps, en fait, dans l'ordre chronologique, ils ont d'abord besoin de déclencher le système pour qu'il repère une anomalie pour qu'elle soit amenée dans une autre pièce.
Exact.
Et ça, pour ça, bah, ils vont utiliser un laser pour aller pointer sur un des capteurs. Et en gros, avec le laser, ça va faire comme s'il y avait une surchauffe. Et dans la salle de contrôle, ça va leur dire attention, il y a une surchauffe, voilà. Et effectivement, la deuxième étape, c'est que vu que c'est quand il y a un souci comme ça, c'est Abigail Chase qui est appelée à la rescousse, c'est qu'ils ont besoin de ces empreintes pour pouvoir accéder à la salle, parce qu'en fait, il y a que elle qui doit sur un clavier spécial taper un code et du coup, c'est je ne sais plus si c'est à ce moment-là que ça vérifie si c'est bien ses empreintes à elle.
Non, c'est pour monter dans l'ascenseur.
C'est avant.
Pour monter dans l'ascenseur, il faut que tu fasses tes empreintes et ensuite c'est un code.
Voilà, il leur faut à la fois les empreintes pour l'ascenseur et le code après. Mm-hmm. Donc, bah, pour ça, ils vont. Bah, je te laisse expliquer.
Ils vont envoyer le pins qui lui manque parce que, en fait, ils le trempent dans du citron. Pour faire genre, regarde, c'est comme ça qu'on... Parce que... Et tout le monde sait que le citron, ça, genre, sèche pas. En gros, ils fabriquent une espèce d'encre invisible et ils trempent le pins dedans. Et ensuite, ils l'envoient à Abigail en mode... merci de nous avoir écoutés. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Voici un cadeau pour me faire pardonner. Et bien sûr, bah, tu sais, elle le touche, elle s'en sert, elle le pose à un endroit, ce qui fait que maintenant, elle en a plein les doigts. Et donc, quand Riley va justement utiliser le laser pour faire bouger tout ça, bah, du coup, quand Abigail va utiliser le clavier et tout ça, elle laisse des traces sur les trucs.
C'est ça.
Et ensuite, bah, en gros, ils l'ont décidé un peu avant, mais Benjamin Gates décide que le meilleur moment pour voler le truc, ça va être pendant un gala. Parce qu'en gros, ils ont un gala dans les archives nationales. Et en gros, quand il y a des gens là, ce qui se passe, c'est qu'ils rangent la déclaration d'indépendance à cet endroit pour s'assurer. Comme ça, ils peuvent faire la restauration et tout ça sans que personne s'embête et tout ça. Et ils pensent aussi que de toute façon, c'est à ce moment-là que Ian va attaquer. Parce que c'est clairement le moment où ils peuvent faire le plus de bruit sans qu'il y ait des gens qui les repèrent et tout ça. Parce que y a plein de gens de partout, quoi.
Donc, ils mettent leur plan à exécution, donc tout se passe bien. Elle reçoit bien le pins, elle va bien laisser les traces avec le code. Donc, ils arrivent, lui, il se fait passer pour un guest qui a réussi à avoir une invitation pour le gala. Et justement, il va pendant qu'il est sur place, on parlera, je ne sais plus si c'est après ou avant avoir volé le truc, mais avant peut-être. Il la croise et il va. Ah non, oui, c'est avant parce qu'il a besoin justement de récupérer son verre.
Oui.
Donc c'est ça, il va la croiser pendant le gala, il lui offre un verre à boire et justement il va récupérer après ses empreintes en récupérant le verre et en utilisant de produits chimiques pour récupérer les empreintes, quoi, en gros.
Ouais, et puis après il le met sur une espèce de capote pour doigts.
Ouais.
Pour Bah, en fait, tout simplement pour l'avoir, pour pouvoir s'en
simuler,
servir.
Voilà, le fait qu'il ait mis les empreintes sur ses doigts, quoi. Donc voilà, tout se passe bien, il arrive à prendre l'ascenseur, là il arrive devant le là où il faut taper le code.
On n'a pas parlé, mais à côté de ça, il y a aussi Riley qui bypass la caméra. Mm. Comme ça, voilà, bon, là il est invisible techniquement. Donc voilà, comme tu dis, il se retrouve devant...
le clavier où il faut taper le code. Et donc là, Riley va encore l'aider. Enfin, il est censé l'aider. En gros, vu qu'il voit là où elle a tapé, les lettres qu'elle a utilisées, ils essayent de... En mettant toutes les lettres dedans, de trouver tous les anagrammes. Parce que apparemment, les mots de passe, c'est obligé de vouloir dire quelque chose.
Ouais.
si c'était juste des lettres qui n'avaient aucun sens, ils n'auraient jamais trouvé le code. C'est un peu bizarre comme logique, mais... Mais parce que justement, alors, petit indice chez vous, si vous voulez créer un code, mettez pas des mots qui existent. Hein. Une suite de lettres, c'est beaucoup plus sécurisé.
Bah, ils expliquent qu'une phrase, c'est plus sécurisé. Si tu mets une phrase, des fois, c'est plus sécuritaire. Surtout parce que c'est beaucoup de caractères.
Oui, bah, tu prends le même nombre de caractères, tu mets des lettres au hasard, c'est plus sécurisé.
Ouais, mais c'est plus difficile pour toi de t'en rappeler.
Ah oui, non, mais ça oui. Ouais. Ça, je suis d'accord.
Mais bon, bref,
des fois,
on
n'est
pas là pour faire de la cryptographie ou je sais pas quoi, là on est là.
La crypto-monnaie, c'est ça que tu veux dire. On n'est pas là pour faire des bitcoins.
Riley lui utilise son logiciel pour faire des anagrammes, sauf
mais
que
ça
lui donne que de la merde et Benjamin Gates c'est bien plus intelligent que tout le monde.
Alors qu'en fait, c'était un nom propre qui était utilisé, donc du coup, ça apparaissait pas dans sa liste d'anagrammes, mais c'était la solution quoi.
C'était une bataille de je sais pas quoi, je sais
fort,
pas.
Fort quelque chose, je crois.
Ouais.
Enfin bon.
Et en gros,
un endroit où il s'est passé un truc très important pour la déclaration de l'indépendance. Bon,
il réussit à rentrer et pour l'instant, tout ce qu'il voit, c'est que la déclaration est encore dans son espèce de boîtier. Là. Je sais pas comment on appellerait ça.
C'est un coffre.
Qui est transparent, là tu peux le voir, mais c'est un truc en métal qui, voilà, pour le protéger. Et il commence à essayer de l'ouvrir, sauf que Riley lui se rend compte qu'il a perdu sa caméra. Et pourquoi il a perdu sa caméra? C'est tout simplement parce que Ian, de l'autre côté, est en train justement de faire exactement la même chose. Donc Benjamin Gates, ça lui prend 2 secondes pour dire ah, merde, c'est Ian, il est là. Donc là lui décide qu'il a pas le temps, donc il s'enfuit avec le coffre en fait, il s'enfuit avec le boîtier et commence à partir. Et au moment où il sort, il y a Ian qui rentre dans le couloir. Donc là c'est un long couloir. D'un côté il y a l'ascenseur et de l'autre côté il y a une porte. Ian rentre par la porte et bien sûr Benjamin Gates lui veut s'enfuir par l'ascenseur. Et là-dessus il y a Ian qui est genre emmerde Gates à le truc. Donc il y a sa main droite. Non, son comment t'appelles ça ? Enfin, son pote là, enfin son employé là, son premier, son plus balèze là.
Ouais, son lieutenant.
Ouais, merci, son lieutenant qui décide comme un abruti de tirer sur Benjamin Gates qui a le truc dans les mains. Sauf que bien sûr c'est un coffre par balle.
C'est blindé.
Donc il arrête 3 balles. D'ailleurs il tire super bien ce mec là. De tous les gars qui tirent dans ce film, c'est le seul qui tire bien parce qu'il arrive à tirer genre 3 balles super proches l'une de l'autre.
De tous les gars qui tirent dans les... de tous les méchants qui tirent dans les films.
Ouais, en plus. Mais ce qui est super con parce que je suis désolé, s'il y a une map et que tu tires dessus, tu détruis la map. T'es un abruti, mec. C'est un abruti, mais bref.
Bah après, il devait savoir peut-être quand même, non ? Parce que je crois, il me semble que, enfin, pas forcément du côté de Yann, mais du côté de Nicolas Cage, ils en parlent, je crois qu'elle est blindée. Et
oui,
tout.
Non, lui, il le
donc
sait.
J'imagine
mais
qu'il doit savoir quand même.
Ce que je veux dire, c'est l'autre, c'est un abruti, parce que si lui, il sait pas que c'est blindé et qu'il tire sur la map, il peut faire des trous
dans
la map.
Oui.
Quoi.
Mais ça se trouve, il sait.
C'est vraiment. Bah, ouais, mais dans ce cas-là, tire pas dessus si tu sais que c'est blindé. Ça sert à rien.
Non, bah parce qu'il voulait pas tirer sur. Son objectif, c'était pas de tirer sur la map. C'était de tirer sur Nicolas Cage.
Ah bon, bah alors il s'est pas tiré alors.
Bah c'est juste que l'autre s'est protégé. Il a eu le bon réflexe. Non, je sais pas, ça m'a pas choqué.
En tout cas, Benjamin Gates arrive à reculer dans l'ascenseur justement en se servant de ça comme d'un bouclier. Et quand l'ascenseur se ferme, il réussit à ouvrir et à récupérer la déclaration d'indépendance et à sortir avec.
Ouais, alors sortir avec, non. Enfin, pas exactement parce qu'en fait, il y a un petit rebondissement. Ou quand il est en train de sortir, il a mis la déclaration d'indépendance dans sa veste. Mmh. Il est en train de partir et là il y a une femme qui l'attend en disant mais vous faites quoi, vous essayez de le voler. Donc là il bug un peu et en fait elle lui dit parce qu'il est dans une boutique de souvenirs et il se trouve que elle pense qu'il est en train de voler une copie de la déclaration d'indépendance qui sert en fait, qui est vendue comme souvenir. Donc, du coup là il se retrouve à devoir payer. Il a pas assez en cash donc au final il finit par payer en carte. Voilà. Ce qui aura son importance, c'est pour ça qu'on le précise quand même, c'est qu'après ça va à son importance. Et là, effectivement, il arrive à sortir, il rejoint Riley, Mais il y a quand même il y a Abigail Chase qui s'est rendu compte qu'il y avait quand même un truc un peu louche et donc qui le suit aussi et qui en fait va comprendre qu'il a volé la déclaration. En même temps, bon, il était venu pour lui parler que quelqu'un allait la voler, donc ouais. Tout de suite elle s'est dit alors, en fait c'était toi quoi.
C'est louche.
Donc là, elle lui prend la déclaration d'indépendance. Enfin, il lui laisse. Bon, enfin, c'est pas dans le film, on n'est pas censé le savoir, mais on comprend quand même que là, quand il lui laisse la déclaration, c'est que c'est une copie. Mais là, Yann, ne sachant pas n'ayant pas cette info, bah en fait, quand il voit ça de loin, il pense que c'est elle qui a la déclaration d'indépendance et il la kidnappe.
Ce que Benjamin Gates n'est pas content. Donc il décide de les pourchasser en camion et après une petite course-poursuite plutôt sympatoche où elle essaye de s'enfuir, donc elle s'attache à la porte du camion de Yann. Ce genre de truc où il y a une personne qui est accrochée à une porte battante, blablabla. C'est oui. Cool, c'est fun.
Ça marche toujours bien.
Elle finit par sauter sur dans le truck de Benjamin Gates, non sans avoir passé la copie de la déclaration qu'elle avait sur elle à Yann.
Oui, voilà, c'est ça. Elle pense avoir perdu.
Qui est, comme tu disais, en fait, un faux de la
on appelle ça. Déclaration d'indépendance.
Du gift shop, en fait.
Oui, voilà, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà, le film, t'as Nicolas Cage qui annonce fièrement que c'était qu'en fait, il a bien la bonne et tout. Mais bon, on va dire que c'était un peu un faux suspense parce que
ouais.
Logiquement, tu t'es pas fait avoir et t'avais bien compris.
Parce qu'ils en avaient acheté une avant. Plutôt.
Ouais, il s'était dit que ça allait forcément servir. Je sais pas si c'est plutôt ou si c'est dans la boutique, je sais plus, mais...
Ben, en fait, c'est ça le truc, c'est que comme il en avait déjà acheté une, c'est pour ça qu'il a plus de cash. C'est ça qu'ils expliquent plus tard, c'est genre, d'accord. Ouais, j'avais plus de cash parce que j'en avais déjà acheté. En fait, il l'a acheté deux fois. Il a dû acheter deux... Mais en gros, bref. Et là-dessus, c'est là que j'ai remarqué la première chose qui diffère de mes souvenirs. C'est à quel point, en fait, Benjamin Gates est un connard. Tellement un connard avec Abigail, genre, il lui parle ouais, comme si c'était genre un enfant.
Ce moment-là, il est un peu gênant. C'est un peu la partie désagréable du film où... Bah, c'est pas comme un enfant, c'est vraiment le côté... parce qu'en fait, donc, elle pète un câble parce qu'il dit, bah non, mais c'est pas normal, vous avez volé, il faut absolument qu'on la récupère. Puis après, quand elle découvre que, en fait, non, c'est bon, ils l'ont, elle dit, bah non, tu me la rends, je vais la ramener, c'est n'importe quoi. Et il y a ce côté, il l'attaque en lui disant « Non, mais tu parles trop, t'es hystérique. » Enfin, c'est vraiment des qualificatifs...
C'est infantilisant au possible.
C'est pas infantilisant, c'est surtout des qualificatifs qui sont utilisés pour rabaisser des femmes, souvent.
Ouais, c'est sexiste et infantilisant, c'est les deux.
Le truc hystérique et le fait de trop parler, c'est des clichés qui sont utilisés souvent là, dans cette optique-là. Et c'est vrai que là, c'est là où le film est... un peu lourdeau quoi.
Ouais, puis c'est un docteur à qui tu parles quoi. Enfin, tu sais, je veux dire.
Il y a des moments où il arrive à avoir des notes d'humour tout en étant des fois un peu limite, mais c'est tu sens que c'est pas fait méchamment. Là par contre, c'est...
Ouais.
En fait, d'un côté, il y a pas mal de moments où ils vont la montrer comme quelqu'un de super intelligent, quelqu'un de que même de enfin d'héroïque etc. Et à côté de ça, t'as ces scènes là où il la rabaisse de manière assez vénère, donc bon.
Puis je comprends pas en plus, parce que depuis le début du film, on montre Benjamin Gates comme étant une personne quand même assez sympathique et très agréable. La première fois, il rencontre Dr. Abigail Chase dans son bureau et tout ça, il est très... puis là-dessus, tout d'un coup, t'es genre, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est weird, bah, bref.
Ouais, non, mais c'est vraiment, je pense, c'est le sous-couvert d'humour et le film se rend pas forcément... compte entre guillemets, je pense que c'est pas forcément très méchant,
mais ça jure
très maladroit et c'est négatif au final. Donc
en 2020 ça jure quoi, 2020 ça jure beaucoup quoi.
Mais du coup on enchaîne sur le fait que ils arrivent un peu entre guillemets entre la convaincre, elle est un peu curieuse aussi, et puis en même temps, bon, elle est pas otage d'eux, mais elle veut pas laisser la déclaration seule avec eux, et en même temps, tu sens qu'il y a une scène où on voit que, voilà, elle va pas, il lui laisse dans les mains, et elle commence à s'enfuir avec, et en fait, il l'attrape facilement, il y a cette scène où, en fait, il la présente comme étant, ne pouvant pas rivaliser physiquement, Et du coup, bah, elle est obligée juste de les suivre. Et puis, à la fois, elle est un petit peu curieuse. Donc là, maintenant, leur plan... Non, à la base, leur plan, c'était de retourner chez eux, où ils avaient mis tout en place des protocoles chimiques pour révéler la carte qui est derrière. Mais là, vu qu'il a payé avec sa carte bleue, il sait très bien que la police va facilement remonter à lui. Donc,
avec
du coup,
sa carte bleue.
Bah oui.
C'est pas une Visa, c'est une Master, c'est genre... C'est...
Mais une carte bleue, ça pourrait dire une carte bancaire.
Carte
en
de
France,
crédit,
on dit carte bleue pour tout. Une CB, c'est une carte bleue. Carte bancaire,
non, c'est une carte
bleue.
Bancaire, mais oui. Okay.
Je sais, mais on dit carte bleue pour tout.
Oui, oui, très bien. Ça m'a juste fait...
Mais voilà, vu qu'il a payé avec sa carte bancaire, et bah, ils ne peuvent plus aller chez lui parce qu'ils vont se faire choper par la police, donc ils doivent trouver un autre endroit pour faire ce protocole. Et en plus, ils avaient besoin de lettres. Et il se trouve que, bah, vu qu'ils ont pu le... Vu que les copies des lettres étaient chez lui, bah, ils sont obligés d'aller chez la personne qui a les originaux. Et il se trouve que c'est le père de Benjamin Gates.
Alors, j'aimerais quand même juste revenir sur un truc. Parce que, comme tu disais, c'est pas juste la police qui les repère, c'est le FBI. Oui. Et donc, le chef du FBI, l'agent spécial du FBI, oui, joué par Harvey Keitel de toute beauté. Et en plus, Harvey Keitel apprend qu'il y a quelqu'un qui leur avait dit que la déclaration d'indépendance allait être volée, mais qu'ils n'ont pas écouté. Quoi. Donc là, il est un peu énervé. Et voilà, comme tu dis... Benjamin Gates se retrouve chez son père, Patrick Gates, joué par John Voight. J'aime le rappeler parce que John Voight, je l'aime bien. Je l'aime bien en tant qu'acteur. Et il lui dit, bah, écoute, on a... Hein ?
Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui ?
Non, mais c'est juste que c'est le père de d'Angelina Jolie. Angelina Jolie a des...
Ah oui, c'est vrai.
A des mots très...
Oui, c'est vrai.
La relation entre lui et elle est pas bonne du tout.
Oui. En plus, j'ai vu des trucs là-dessus il y a pas longtemps qui étaient folles.
Donc,
je vais en faire une petite anecdote. Mm-hmm. J'ai vu c'était une journaliste qui avait raconté ça. Et en fait, une fois, elle devait, avec un panel de journalistes, interviewer John Voight. Et il se trouve que, en fait, ils ont mal compris. Enfin, elle avait mal compris. Elle s'est retrouvée dans la chambre 10 au lieu de la chambre 110. Okay. Sauf que John Voight, il s'est trompé aussi. Du coup, ils se retrouvaient tous les deux, juste tous les deux, et ils attendaient comme ça, il se passait rien, et au bout d'un moment, je sais pas, ils ont commencé à discuter, et il se trouve que elle avait aussi une relation compliquée avec son père, ou je sais pas quoi, donc il s'est effondré en larmes, et ils se sont tous les deux effondrés en larmes en expliquant leur situation. Et lui, il expliquait justement qu'il, alors je connais pas exactement l'histoire, mais qu'il regrettait énormément, machin tout. Et en fait, elle explique, après, donc il y a ça, et déjà, c'est une anecdote déjà un peu dingue, parce que quand il y a le mec qui est venu pour les trouver, qui a fait, mais vous faites quoi là? Ils étaient tous les deux en larmes, et ils ont bugué. Et en fait, genre 5 ans plus tard, elle avait interviewé Angelina Jolie au téléphone. Mm-hmm. Et pareil, elle avait parlé de sa relation avec son père. Elle s'était effondrée en larmes aussi au téléphone. Et justement, c'est là qu'elle lui avait expliqué que John Voight, quelques années d'avant, lui avait dit qu'il regrettait énormément et tout. Et il se trouve qu'apparemment, ils se sont remis à se parler récemment, quoi.
Mais c'est pas impossible, parce que bon...
Pas forcément que grâce à ça, mais ça a dû... Parce que là, elle était étonnée, quoi. Elle a fait « Ah bon, il a dit ça, quoi. »
C'est super drôle.
Donc c'est vrai que j'ai complètement vu cette histoire, mais là, ça vient me faire rappeler, et je pense que l'anecdote est assez marrante à raconter, donc...
Bon, bah, je relève voilà. Bien, alors, John Voight, s'il a montré un
après,
peu...
Après, on n'a pas tous les détails, attention.
Non, mais voilà, bon. Mais, bref, si ça peut se réparer, ça veut dire qu'il essaye de faire des efforts. Moi, j'aime bien les gens qui font des efforts.
Apparemment, ils reparlent, je crois.
Bon, en tout cas, John Voight... qui joue le père de Benjamin Gates, Patrick Gates. Voilà.
Que le résumé va être long. Si
mais belle tangente, belle tangente. Moi, j'aime ça, ces tangentes-là.
Non, mais là, ça valait le coup, je pense.
Je pense aussi. Il lui demande, qu'est-ce que tu fous là ? Et fait, j'ai besoin des lettres, donc des Silence Dogood, des lettres Silence Dogood qui ont en fait été écrites par Benjamin Franklin et qui ont en fait apparemment un rapport
En fait, sur il y a un indice où c'était écrit silence avec un S majuscule et du coup ils ont pensé que c'était le nom d'une personne et du coup que ça serait le fameux Silence Dogood.
Ah oui, c'est ça. On avait complètement oublié. C'est pour ça que Ian peut pas tuer Benjamin Gates au début. C'est parce qu'il lui dit, moi je sais qu'il y a un autre indice dans ce qu'on a lu. Si tu me tues, tu le sauras jamais. Là, il lui dit, donne-moi l'indice. Benjamin Gates refuse. Machin arrive et on en arrive ici.
Alors qu'en vrai, on se rend compte, on voit après que Ian en parallèle, il a trouvé cet indice assez facilement aussi. Mais bon.
Parce qu'il n'est pas si con que ça en fait, Sean Bean.
Bah oui,
Sean Bean
n'est
pas stupide. On l'apprend d'ailleurs. Et en gros, bah, Patrick explique que ben non, mais en fait il les a donnés quoi. Il les a donnés au Benjamin Franklin Institute, ce qui est vraiment pas stupide parce que
oui,
en fait c'est ça. Les lettres sont pas à son père, elles sont à son grand-père. C'est le grand-père qui les avait. Le père lui a fait bah ça sert à rien, je vais les donner. Ce qui est logique.
Puis voilà, garder des éléments d'histoire chez soi, c'est un peu bête quoi. Juste pour son plaisir perso, autant faire participer, enfin. Donner ça au musée, quoi. Donc là, l'idée, c'est que vu qu'ils ont besoin de... Alors, avant ça, avant d'avoir besoin des lettres, en fait, bah, ils vont quand même, chez le père, récupérer du citron pour faire apparaître ce qui est, la carte au dos de la déclaration d'indépendance. C'est ce que tu fais, quoi.
Cette scène, elle m'a tué.
C'est les trucs qu'il y avait dans le journal de Picsou quand t'étais jeune.
Cette scène-là, elle m'a tué parce que t'as John Voight qui est là, qui est genre, bah, utilise du citron et de la chaleur, quoi. C'est tout ce que t'as besoin. Et là, il lui fait « Mais t'as du citron ?» Et l'autre, il ouvre son frigo, il y a genre...
Il y a 20 000 citrons.
Il y a genre 40 citrons dans son frigo. T'es genre « Mec, du citron, ça se gâche en genre 2 semaines, là, si tu le laisses dans ton frigo. Pourquoi t'as 15 citrons dans ton... »
Ouais, puis ça sert pas pour tant de choses que ça, quoi. Bah, pour faire de la citronnade. Le mec adore la citronnade.
Mais enfin, bref, il avait raison. Donc, en badigeonnant l'arrière de la carte avec du citron et en utilisant un dryer pour voir s'il y avait quelque chose. Ah, il se rend compte que voilà, il y a c'est un cipher, donc
c'est un élément qui permet de décrypter le code. Et en fait, quand tu remplaces en gros les lettres de des messages par en utilisant le code, bah ça va te donner un autre message.
Et pour ça, donc voilà, là ils apprennent que les lettres sont au Franklin Institute, donc pour ça ils décident d'aller au Franklin Institute. Le truc, c'est qu'ils peuvent pas y aller parce qu'ils sont déjà recherchés par la police. Donc Riley décide d'envoyer un enfant. En gros, il lui donne $1 par lettre et lui dit va chercher telle lettre. Et il le fait en incrément de 4 fois, en gros. 4 fois,
j'ai pas compris le délire.
Bah, c'est juste au cas où il se fait choper, le gars a pas toutes les lettres, en fait. C'est juste pour ça.
Ce qui pense... d'ailleurs... Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas bête.
Ce qui est exactement ce qui se passe, en fait. Puisque Ian est aussi ici parce qu'il a compris que ça avait rapport avec les lettres.
En même temps, s'ils avaient fait ça une fois, ils se seraient pas fait choper, vu qu'ils...
Oui.
Mais bon,
c'est plus prudent.
Ça va.
D'ailleurs, il y a un moment de suspense assez cool où l'enfant retourne pour la 4e fois, il récupère les lettres. Et là, Ian s'est rendu compte que cet enfant-là, ça fait 2 fois qu'il est venu et qu'il check les lettres.
Oui, voilà, parce que t'as Ian et son équipe qui sont en même temps dans le Franklin Institute en train de checker les lettres.
Et du coup, il se dit, ah ok, il y a quelque chose. Et en sortant, ben, finalement, Riley est plus là parce que lui, il a déjà découvert c'est quoi.
Ouais, il avait besoin de la suite, il avait anticipé les lettres suivantes.
Ouais.
Il avait compris l'indice.
Grâce à un panneau sur un bus. Et donc, Ian a juste les dernières lettres. Et Benjamin Gates et tout le monde ont tout le reste. Ce qui, en fait, les emmène au Independence Hall, là où il y avait la cloche de la liberté, Liberty Bell, à l'époque.
Donc là, on a Nicolas Cage qui va grimper sur la tour, qui va repérer une pierre où il y avait un symbole dessus. Et En détachant cette pierre, à l'intérieur, il va découvrir une paire de lunettes.
Une paire de lunettes 3D, quoi.
Ouais, c'est ça.
Une paire de lunettes 3D.
C'est une paire de lunettes, mais très, très steampunk, où t'as un verre bleu, un verre rouge, mais qui se bougent, qui sont des verres un peu en décalé que tu peux bouger avec des armatures et tout dans tous les sens. C'est assez stylé. Et en fait, après, ils vont l'essayer tout de suite sur place. En fait, quand tu mets les lunettes et que tu regardes la déclaration d'indépendance, ça va te révéler un message supplémentaire.
Voilà, et la première chose qu'ils font pour l'instant, c'est juste qu'ils mettent toutes les couleurs en même temps et ils regardent la déclaration d'indépendance et ils se rendent compte que c'est censé les emmener à la Trinity Church qui est à New York.
Et là, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a Yann et ses hommes qui sont en train d'arriver et qu'en fait, ils sont un peu tout autour de là où ils sont et que il va falloir qu'ils trouvent une solution pour s'enfuir. Donc là, pour limiter les risques, ils vont séparer un petit peu les objets parce qu'il faut à la fois les lunettes et la déclaration pour avoir l'indice. Ils vont y a Nicolas Cage qui va prendre les lunettes et l'étui de la déclaration pour faire genre qu'il a les deux. qui va partir d'un côté, pendant que de l'autre côté, il y a Abigail et Riley qui s'enfuient avec la déclaration. Donc là, il y a des deux côtés d'une course-poursuite qui se lance. Donc Nicolas Cage, de son côté, il va se faire poursuivre jusque sur des toits. Il se fait menacer par un flingue, par un des mecs de Yann, donc il va lui refiler l'étui. Le temps que l'autre découvre, enfin repère qu'il n'y avait rien dans l'étui, il va réussir à s'enfuir. De l'autre côté, on a Abigail et Riley qui font face aussi à plusieurs hommes. Y a un petit moment rigolo où elle se cache, où t'as Abigail qui se cache et qui est aidée par une commerçante parce qu'elle lui explique qu'elle est poursuivie par son ancien mari. Et donc elle l'aide à se cacher. Et je me rappelle plus exactement comment ça se finit parce que en fait c'est Nicolas Cage qui va finir par se faire choper. Et Abigail et Riley ils voient qu'il est en train de se faire choper, donc ils vont se cacher, quoi.
C'est chopé par Harvey Keitel et le FBI qui finalement lui disent OK, elle est où la déclaration d'indépendance? Et là le gars il dit je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai, c'est Yann qui l'a. Il l'a volé, je vous avais expliqué qu'il allait le voler. Et là, le gars lui dit, écoute, si tu nous aides à le récupérer, au pire, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Mais pour l'instant, tu sais, genre... Et là-dessus, Abigail décide d'aller parler avec Yann, carrément, pour qu'il les aide à aider Ben en échange qu'il lui donne le prochain clou.
Ouais, en fait, il part du principe que le seul criminel qu'ils connaissent, c'est lui. Donc ils veulent faire libérer Nicolas Cage, et du coup, pour ça, la seule façon qu'ils ont trouvé, c'est de faire appel à Yann pour qu'il les aide dans cette entreprise-là. Et oui, lui vu qu'il veut le trésor, ils lui promettent ça en échange. Il y a le FBI qui met en place une rencontre en fait entre Yann et Nicolas Cage, mais au moment où ils sont au point de rencontre, que Yann est censé venir, et Nicolas Cage réussit à échapper au FBI en plongeant dans l'eau et en s'échappant, tout simplement. Alors là, en fait, j'ai pas trop compris à ce moment-là parce qu'il a vu quelque chose qui lui a fait penser qu'il pouvait aller dans l'eau.
Les gars de Yann bloquent la connexion qu'il a avec le FBI et il y a un type qui lui rentre dedans et qui lui dit il faut que tu sautes là-bas, t'as 15 secondes, blablabla. Et en gros, c'est ça qu'il fait et il saute. Et en gros, il re-rencontre Yann et il lui dit écoute. Le trésor est dans Trinity Church. Et quand il rentre dans Trinity Church, le gars est genre « Ouais, c'est où ?» Et là, je sais plus pourquoi, en gros, c'est littéralement un hasard. En fait, il se rend compte que la carte de la Déclaration d'Indépendance, en fait, en fonction de quelle couleur tu mets tes lunettes, ça change le message qu'il y a dessus.
C'est ça.
Et en gros... En faisant ça, il se rend compte que c'est un souterrain derrière une tombe dans le basement. Une tombe pour je sais plus qui, là, un gars qui a un nom bizarre.
Une tombe.
Ouais. Et en gros, c'est littéralement un passage. Et quand il rentre dans ce passage, c'est un immense puits avec plein de
d'escaliers en bois.
On n'en a pas parlé là-dessus, mais Yann a décidé d'avoir une police d'assurance est en la personne du père de Benjamin Gates. Donc maintenant, John Voight est aussi dans le truc. Et en gros, ils doivent descendre tout en bas de ce puits atteindre une cave, quoi.
Il y a des escaliers en bois, il y a aussi des espèces des passerelles, il y a aussi c'est un peu le bordel, quoi. C'est un vrai niveau de jeu vidéo, quoi. Des plateformes et tout, faut sauter de plateforme en plateforme. Mais oui, quand ils commencent leur descente, ce qui devait arriver arriva.
Ça se pète de partout,
voilà, le bois avait pourri, c'est tellement longtemps que, que bah c'est plus du tout sécurisé. Donc là c'est un peu la merde, il y a un mec de Yann qui tombe carrément dans le vide. Bon, bah, finalement il y a comment ça s'appelle Abigail qui va sauver Nicolas Cage de tomber. Et ils se retrouvent un petit peu, ils se retrouvent au final tous à, en tout cas tous les personnages importants en bas de la, en bas du puits et il y a rien.
Il y a rien et à part une lanterne. Et là-dessus, John Voight et Nicolas Cage sont en mode ah, on va pas leur dire blabla, comme si ils essayaient de cacher un secret. Et là-dessus, il y a Ian qui lui dit écoute, là, si tu me dis pas à quoi tu penses, je vais tuer Abigail ou Riley, whatever. Et donc John Voight est en mode ok, je pense que ça fait référence à Midnight Ride de Paul Revere. Et en gros, il lui dit faut que t'ailles à la vieille Old North Church à Boston. Et donc Yann décide de repartir en prenant le seul ascenseur qu'il y a, bah, ascenseur, truc en bois qui remonte, en leur disant bah, au pire, si c'est pas là-bas, je sais où vous retrouvez, vous allez pas bouger d'ici, quoi. Bien sûr, c'était un subterfuge.
Puis c'était vraiment une idée complètement conne, déjà, de base, ouais. Parce que Yann, il leur dit ouais, mais si vous, je vous amène à Boston, vous allez essayer de vous enfuir. Mais depuis le début, t'arrêtes pas de les emmener partout où tu vas. Et il suffit de les surveiller. C'est-à-dire que là, s'ils t'ont menti, tu dois tout le temps retaper,
ouais.
Revenir ici, redescendre, les chercher. Ça se trouve, ils sont morts.
À la limite, laisse un gars dans la church.
Juste, non, mais ou à la limite, tu les amènes à la hauteur, tu empruntes un. Tu vas dans un hôtel et tu mets un mec qui est surveillé dans l'hôtel, enfin je sais pas, mais là, ouais. Ça a aucun sens.
Non mais parce que je pense que le truc aussi c'est de le tuer, quoi. C'est que comme ça il va mourir ici.
Oui,
il n'y a pas de trace, il n'y a pas de machin, quoi.
Non, mais c'est d'accord. Mais du coup c'est complètement con s'il leur fait pas confiance, en tout cas. C'est-à-dire qu'il leur fait vraiment confiance, quoi.
Ouais. Bah, ce qui est un peu con.
Sinon c'est pas une bonne idée, quoi. Mais bon. Mais oui, effectivement, en fait, le père et le fils, ils ont inventé cet indice on the spot, c'est pas du tout. Enfin, ils ont improvisé le truc à ce moment-là pour se débarrasser d'Yann, mais en fait, non. Ça n'est pas du tout vers Boston, cet indice. En fait, ils découvrent qu'il y a une autre salle qui était cachée derrière là où ils pensaient que c'était une fin de parcours, quoi. Et donc, ils se retrouvent dans une autre pièce. Qui est complètement vide. Donc ils ont l'impression d'avoir accédé en fait à la salle du trésor, mais que quelqu'un ait déjà récupéré tout. Et là, ils découvrent. Alors, je sais plus comment ils font, mais ils prennent.
On a aussi le droit à un petit moment assez où justement Benjamin Gates est genre ah merde, ça existe. Enfin, peut-être que le trésor n'existe plus, il est plus là, et on a le droit à un petit moment sympa entre lui et son père. Genre, non, mais attends, tu déconnes. Moi, je pensais pendant 20 ans que ça n'existait pas. Regarde, t'es là, on est dans une pièce.
Il
n'est
plus là, mais
il
a existé. S'il y a une salle, ça veut dire qu'il a existé. C'est ça. T'avais raison. C'est juste qu'il n'est plus là, quoi.
Et là, il décide, bon, bah, finalement, ce qu'on va faire, on va essayer de sortir. Et là, Benjamin et son père sont genre, attends, mais. Parce que normalement, la première chose que tu fais quand tu construis ce genre de truc, c'est que tu construis un tunnel pour sortir, en fait, tout simplement. Et là, ils sont genre, mais attends, il n'y en a pas du tout, quoi. Donc là, ils sont genre, ah merde, attends, peut-être qu'il y a une autre pièce. Et là, ils voient sur le mur qu'il y a quelque chose qui ressemble à la pipe, en fait.
Oui, c'est ça.
Qu'ils ont d'ailleurs récupéré, je me rappelle même plus quand. Je me souviens plus quand c'est qu'ils ont récupéré la pipe.
Je sais plus.
Récemment, I guess. Donc là, il met la pipe dedans, il le tourne, et en fait, ça ouvre une autre pièce dans laquelle, cette fois, il y a le trésor. Et c'est un trésor, là. C'est tout ce que les Templiers ont volé aux Égyptiens, aux Indiens, tout. Tout est là. Déjà. Aïe.
Ça fait une grande salle bien remplie. Ouais. Mais surtout, en plus de ça, effectivement, au fond de cette salle, ils voient qu'il y a des escaliers qui remontent de la surface. Donc c'est bon, ils vont pouvoir sortir.
Exact. Et quand ils sortent, ils décident d'appeler le FBI. Ce à quoi on a le droit à Monsieur Harvey Keitel qui s'en vient. Et là, on apprend que Monsieur Harvey Keitel, il a une bague. Il a une bague bizarre avec un logo des francs-maçons dessus. Donc, il fait partie des francs-maçons. C'était à lui de protéger le trésor, sauf qu'il savait pas où il était. ce que je trouve très con. Donc là, il lui dit, écoute, voilà, il y a le trésor ici, mais on le veut pas, en fait. On le veut pas, le trésor. Techniquement, on l'a donné.
On fait pas ça pour ça.
Donc on veut juste le rendre au musée à qui ça a été volé à l'époque, en fait. Mais par contre, on veut être crédité pour la découverte et que famille soit totalement...
c'est plutôt qu'elle soit plus considérée comme des charlatans.
Ouais, voilà, exactement. Et là-dessus, le gars lui dit, mais par contre, il y a besoin de quelqu'un, il faut que quelqu'un aille en prison, quoi. Et là, Nicolas Cage lui dit, attends, moi, j'ai une solution pour toi, tout ce que t'as à faire, c'est aller à Boston pour la Old Church, Old North Church. Et donc voilà, ils finissent par aller arrêter Sean Bean, ce qui en fait un des très rares films où il ne meurt pas. Donc j'étais très surpris par ça.
On n'a pas parlé dans l'intro, ça ?
Je sais plus.
Je l'avais noté, donc je sais plus si j'en avais parlé.
J'étais pas surpris, je l'ai déjà vu le film, mais t'es genre.
Oui, c'est vrai.
Ça fait partie. c'est la petite surprise du film où il meurt pas, en fait, finalement.
Donc c'est ça, donc t'as Abigail qui elle obtient le droit de juste pas être en prison.
Ouais, c'est déjà bon droit.
Pas être en prison, mais
non, elle garde son
totalement
travail,
être de pas perdre son travail, que ce qui est même pas une seule mention de cette histoire sur son CV, on va dire. Donc lui, il obtient le fait de ne pas aller en prison, on peut aussi, enfin c'est plutôt cool. Et ils obtiennent aussi, alors normalement c'est 10% de la valeur du trésor que tu obtiens, mais là il accepte de refuser ses 10% et d'accepter que 1%. Mais voilà, ils ont aussi ça.
Ah, mais tu sais, c'est censé être le plus grand. Donc ils ont quand même clairement $1 milliard juste à eux.
Oui, 1%, ça suffit, je pense.
C'est genre.
De toute façon, après, tu vois. Hein, donc, t'as Riley qui s'est payé une Ferrari ou qu'on lui a offert une Ferrari, je sais plus. Donc, c'est ça. C'est la fin où tout va bien, quoi. Donc, lui, Riley, il a sa Ferrari. Donc t'as Ben et Abigail qui maintenant sont ensemble, quoi. Ils sont tombés amoureux pendant l'affaire, quelle surprise. Et puis voilà, quoi. Eux ils ont acheté une maison qui ressemble à un château, quoi.
Et je crois que c'est une maison qui a une valeur historique, spéciale, blablabla.
Et ça finit sur Abigail qui a créé une nouvelle chasse au trésor et qui donne à Ben une carte au trésor en lui disant voilà, je suis sûr que vas-y, revois si t'arrives à trouver le prochain indice.
Ouais, tu vas le trouver, quoi, en gros.
Voilà, et voilà. Son nouveau truc.
Et c'est là-dessus que se ferme Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Et alors, Julien, c'était quoi ?
Bon, écoute, c'était plutôt fun.
Yes!
Bon, après, je t'avoue que moi, la partie qui m'a surtout plu, c'est la partie casse, on va dire, film de casse au début.
Ouais.
Après, sur la deuxième partie, bon, ça devient un peu plus bateau, mais en même temps, ça reste toujours assez fun. Voilà, c'est un film d'aventure qui a pas trop de moments un peu longuets, donc ça va. Quelques-uns quand même, mais bon, globalement, il a un bon rythme, ça... Ça s'enchaîne plutôt pas mal. Il a quelques points d'humour qui peuvent être réussis. Il est pas trop lourdeau sur son humour, à part la scène qu'on avait décrite un peu plus tôt.
Ouais.
Tantôt, comme tu dirais.
Tantôt, ouais.
donc non, un bon moment, quoi. Un film familial, mais qui se laisse regarder sans problème.
Ça, c'est clairement un blockbuster, là, on s'entend, là. La logique, elle n'est pas tout le temps là, tout le temps, mais il se laisse aller, là, ça glisse bien, c'est plutôt bien réalisé. Comme on disait, à part le problème qu'il y a clairement avec Abigail, surtout que ça, on n'en a pas parlé, mais à la fin du film, ils finissent ensemble.
Si, je viens de le dire. C'était vraiment pas une surprise.
Oui, non, mais c'est pas une surprise, mais c'est dégueulasse, quoi. Après que, genre, il a littéralement juste insulté tout le film, puis
oui,
il sort pour ça.
Pas tout le film, faut pas exagérer, c'est pas tout le film. Après, ça se calme, en fait. Mais c'est surtout au début, il y a une scène où, je sais pas, ils ont dû se dire que c'était marrant. Non, après, ça se calme quand même. Tu sens qu'ils ont quelques moments de rapprochement, mais bon, c'est un peu toujours ces deux intellos qui aiment la même chose, donc forcément ils vont finir ensemble. Bon, après c'est bon, C'est pas... Non, et le seul truc, je dirais, c'est que moi, j'aime bien aussi le film, généralement, qui ont ce côté énigme avec des trucs à suivre. Je trouve que ça marche bien. Après, là, je trouve que ça marche moins bien dans celui-là parce qu'en gros, c'est des... les énigmes, le spectateur peut jamais les trouver. Parce qu'en fait, c'est des trucs trop... C'est trop poussé, donc du coup, tu peux pas être du côté où tu dis « Ah putain, ouais, moi j'ai trouvé aussi en même temps qu'eux » ou limite trouver des trucs avant eux. Là, en fait, juste tu les regardes dire des phrases comme ça. Quand ils ont des indices, ils réfléchissent à haute voix, mais ils pourraient dire « boubiga bouga bouga », ça serait pareil. En fait, ils disent juste des mots et toi, ton cerveau, il a pas la logique. Donc, je trouve que ça rend le truc moins intéressant.
Ouais, non, bah c'est ça, c'est vraiment pas fait, c'est pas le genre de film qui est fait.
Tu te rends pas compte si les énigmes sont bien foutues, si les mecs sont intelligents, parce qu'en fait, juste, ils disent des mots, puis à la fin, ils ont trouvé, puis du coup, puis, au prochain indice, c'était ça, quoi.
Après, on se rend compte aussi que, tu sais, c'est très... c'est l'Amérique, quoi. Nous, c'est pas notre histoire.
Ouais,
quoi.
Mais je pense que ça dépasse ça. Parce que aussi, moi, je me suis dit, ça doit être ça. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense pas
non, mais je pense, t'as raison.
Je pense
les
pas
deux,
que les Américains puissent être dans cette situation où ils sont en train de, ils trouvent les indices et tout aussi. Non, c'est trop technique. Ça serait la même chose avec l'histoire de la France. Je pense qu'on.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ça soit les Amériques, les États-Unis, ça nous met une barrière en plus. Quoi. Je dis pas que c'est la seule raison.
Il y a quelques moments
raison,
qui sont un peu marrants, où ils se disent la déclaration d'indépendance, c'est le document le plus important de l'histoire, ou je sais pas quoi.
Calme-toi, c'est ça. C'est un bout de papier. La chose que je me demande, c'est est-ce que après ce film, les gars de la déclaration d'indépendance ont fait le test avec du citron ou pas? C'est genre, attends, merde. Non! J'ai niqué la déclaration d'indépendance. Non!
Bah voilà. Bon, on avait fait une copie ou pas?
j'espère vraiment que. Alors, parce que j'ai vu le 2, mais je m'en souviens pas autant que le premier. J'espère vraiment que dans le 2, on va apprendre pourquoi est-ce que John Voight il garde autant de citrons dans son frigo. Il faut qu'on me réponde là-dessus, man.
Bah, c'est Benjamin Gates 2 et les citrons de la citronnade.
C'est ça le troisième, en fait. Celui qu'ils vont faire bientôt, ça va juste être ça. C'est pourquoi. National Treasure and why John Voight has lemons
en fait,
in his fridge.
le trésor national, c'est les citrons.
Il n'y a pas une histoire avec, comment il s'appelle, George Washington qui a coupé un citron, un citronnier ou je sais pas quoi, un arbre avec... Bref.
Ok. Bien,
mais voilà, en
trop
tout
montage.
Cas, ça c'était pour le film. Qu'est-ce qu'on a à penser de Monsieur Cage? Classique, hein?
Ouais, c'est compliqué de jouer parce qu'en fait, bon, c'est... Le personnage lui ne va pas lui demande pas de faire une prestation extraordinaire, donc au final ouais, voilà, c'est le personnage, il a des petits moments où il est intelligent, il a des petits moments où il fait un peu des points d'humour, il a des petits moments où il y a un peu d'émotion, il y a un petit peu de tout quoi, mais c'est très classique, donc au final la prestation elle est normale. Ça pourrait être n'importe quel autre acteur, Nicolas Cage, enfin il a pas forcément apporté sa patte.
Non, c'est ça. Je trouve que
en plus, c'est assez oubliable au final.
Ça rend ça. Je pense qu'on vient de trouver. Étonnamment, c'est clairement son film le plus apprécié au box office et tout ça. Mais je pense aussi qu'on vient de trouver le film parfait pour être neutre, notre point neutre cinématographique en fait. C'est 5 de performance, 5 de folie, tu sais, genre. Neutre.
Ouais, bah c'est Nicolas Cage qui s'est déguisé en au parfait petit acteur remplaçable de Hollywood, donc c'est regardable, mais clairement ça aurait pu être n'importe quel acteur, autre acteur.
Ouais, je pense pas que ça, on aurait pas pleuré. Ouais.
Non, parce que même le personnage, il a pas de. Le personnage qu'il incarne, il a aucune aspérité, quoi. Il a aucune. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelles sont ses qualités, ses défauts? Enfin, genre ses points de. C'est juste, on sait qu'il est intelligent, quoi. Qu'il connaît très bien l'histoire. C'est la seule chose qu'on sait sur lui. Après, bien sûr, il y a l'histoire avec la relation, son père, machin et tout, mais.
Même là, on n'y va pas bien. Ouais, ça va pas bien.
Non, enfin. On n'y va pas tant que ça, quoi.
Et puis, je joue pas tant dessus. Ouais.
Le personnage, il n'est pas marqué du tout, quoi.
Non.
Il n'a pas de personnalité très poussée, il n'a rien, donc du coup. Ouais, il a pas apporté quelque chose qui aurait pu tu vois, Indiana Jones, il a quelque chose, quoi. Il a une personnalité, on peut l'expliquer, on peut passer du temps dessus. Là, ouais. C'est juste un mec.
Ouais, non, je trouve que t'as raison. Donc,
ouais, j'aime bien ton idée de faire de ce film un peu la baseline de...
Bah, au final, c'est vrai que c'est
point
pas mal.
Le point d'équilibre, voilà. Le point zéro du...
Ouais.
Des deux métriques qu'on utilise.
Parce que, il fait la job, là. Il fait vraiment son travail. C'est propre. C'est pas mauvais. C'est pas incroyable. Donc, moi, je suis bien avec 5-5. Puis je pense que ça va fermer notre parenthèse sur ce film-là.
Ouais, voilà. Donc, écoute, film agréable. Ouais. Quelques surprises... légère, mais voilà, dans le début du film, je trouve, voilà, ce puis qui est réalisé correctement, rien d'impressionnant, mais qui a pas trop vieilli d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un film, on a quoi en 2004, je crois que c'est ça, 2004,
ouais,
qui a plutôt bien vieilli dans ses effets spéciaux,
Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est...
Non, il y a juste le moment voilà, où ils descendent dans, dans le puits, là. Mais non, voilà, donc... à regarder dans une soirée pour un film sans prise de tête, mais pas plus, mais voilà. Juste un peu déçu de que Nicolas Cage n'ait pas réussi à rehausser un peu le rôle qu'on lui a, le personnage qu'on lui a donné en ajoutant une facette en plus, mais bon.
Ouais.
Ça se regarde très bien. Écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Donc, pour ne rien louper des prochains épisodes qui vont sortir, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux déjà, sur Twitter Citizen Cage Pod, sur Facebook et Instagram Citizen Cage Podcast, et puis pour vous abonner au flux de podcasts sur iTunes, donc Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, et puis dans toutes les applications type Podcast Addict, ou en cherchant avec l'autre nom, donc Citizen Cage, ou en cliquant sur le lien du flux RSS qui est sur les réseaux sociaux. On se retrouve nous dans 2 semaines pour parler de quoi on va parler. On va parler de Lord of War.
Ouais. Celui-là, il me plaît bien.
Encore un film un peu de, entre guillemets, notre jeunesse. Enfin, ça fait partie des films que je pense qu'on a vu au moment de leur sortie, ou en tout cas pas loin de leur sortie.
Ouais.
Donc du coup, qu'on va revoir avec un œil nouveau.
Ouais.
Voilà. Okay. Si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous dans 2 semaines. Ciao.
À la prochaine, les gens. Bye.